En fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio.
Non.
Alors je vais vous raconter une histoire passionnante.
Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
Eh bien, cette histoire est fausse.
Puis le passé, c'est le passé, je n'aime pas en parler.
Tu parles d'une connerie.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Tu parles d'une histoire.
Bonjour à tous et bisous sur vos crânes. L'histoire du jour sent bon, le 13e siècle, la brume sur les lochs et le vent qui court à travers les Highlands. Nous sommes en 1272, au cœur de l'Écosse et dans une famille de petite noblesse, les Wallace. Le truc tout rouge qui braille dans son berceau, c'est un petit garçon, William Wallace. Et Willy a du pot, il grandit dans une époque plutôt calme. Pour une fois, le pays de la cornemuse et du whisky est gouverné par l'un des siens, Alexandre III. Pendant plus de 20 ans, Alexandre règne tranquillement. Mieux que ça, il réussit à repousser la couronne d'Angleterre qui essaie, comme d'habitude, de prendre le contrôle du royaume d'Écosse. Malheureusement, son talent pour tirer des gros doigts aux Anglais ne le protège pas des accidents débiles. En 1286, le roi se mange une gamelle d'anthologie à cheval et trépasse comme un couillon. Et comme les emmerde, ça vole en escadrille, c'est à sa petite fille légitime, Margaret, de passer l'arme à gauche, 5 ans plus tard. C'est la crise de succession dans toute sa splendeur. Un qui réplique à la vitesse du son, c'est le roi d'Angleterre, Édouard Ier, qui propose son arbitrage sans aucune, mais alors aucune arrière-pensée, et ça pour arbitrer. Il arbitre, il choisit le candidat qui ressemble plus à un couillon et l'a fait à l'envers au clan écossais, beaucoup plus occupé à s'envoyer des marrons qu'à se méfier de Doudou Ier. Il manque une figure, quoi, quelqu'un d'assez convaincant pour fédérer tout ce beau monde. C'est là que William Wallace entre en scène. Physiquement, il en jette, il est grand, carré, roux comme un renard, et il se balade avec une claymore, une grosse épée aussi haute que lui, absolument idéale pour tailler des culs et s'en faire des lardons. Et quand je dis tailler des culs, je parle bien de cul anglais, parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient son problème, mais une chose est sûre, William ne peut pas voir les rosbifs en peinture. Du coup, Willy commence à se la jouer Robin des Bois vers le milieu des années 1290. Après avoir rançonné les Anglais, il franchit un pas de plus en 1297 en massacrant la garnison de Lanark, une forteresse tenue par les British. L'attaque met le feu aux poudres, dans toute l'Écosse la révolte flambe, et les grands chefs de clan se rangent derrière William, ce petit chevalier qui incarne soudain la colère d'un peuple, quelque chose comme une Jeanne d'Arc en kilt. Enfin, je dis ça, personne ne porte de kilt au XIIIe siècle, ça viendra plus tard, mais vous voyez l'idée. Une fois encore, une fois de plus, l'Écosse se soulève, et une fois encore, une fois de plus, c'est à 1-10. Tenez, près de Stirling, les Anglais sont déjà beaucoup, mais alors beaucoup là, quand Wallace se pointe. 10 000 fantassins, 300 cavaliers armés jusqu'aux dents d'un côté, 4 000 zazous en guenilles de l'autre. Sur le papier, c'est moche. Et pourtant, l'audace, le coup d'œil de Wallace font merveille, les Anglais se font tordre, quelque chose de bien, avec un bilan de 3 000 trépassés. En 2 ans, la plupart des villes d'Écosse rejoignent Wallace et les chefs de camp le proclament gardien du royaume et chef de ses armées par la grâce de Dieu. Et puis, Édouard Ier siffle la fin de la récré. Pressé par la noblesse d'Écosse, Wallace fait l'erreur d'abandonner la tactique de guérilla qui lui réussissait si bien depuis 2 ans et accepte une bataille rangée. Le 22 juillet 1298, William Wallace se présente à Falkirk avec sa bite et son épée et pas grand-chose d'autre. Cette fois-ci, pas de miracle, les pauvres Écossais se font rouler dessus en 3 heures pour un score final de 2000 morts à zéro, ou à peu près. Wallace réussit bien à survivre quelques années à cette déroute, mais il finit par se faire choper en août 1305 du côté de Glasgow, et c'est le moment de boucher les oreilles des enfants parce que ça ne va pas être beau. Wallace est accusé de haute trahison, un crime puni par un mode d'exécution bien gratiné, le « hanged, drawn and quartered ». Question sauvagerie, ça vous ferait passer Game of Thrones pour Petit Ours Brun. Le 23 août 1305, on commence par le traîner derrière un cheval de Westminster à la Tour de Londres. Là, on le pend, pas pour de bon, pas pour le tuer, juste pour l'étouffer, le briser, lui faire sentir la mort qui arrive. Vient alors la partie la plus abominable, on le castre et on lui ouvre le ventre avant de cramer ses roupettes et ses intestins sur un brasero sous ses yeux. Tandis qu'il agonise. C'est seulement après ça qu'enfin, le bourreau donne le coup de grâce et décapite William. Jusqu'au bout, la couronne a redouté un coup de main des Écossais, mais rien, personne n'est venu sauver Willy. On expédie alors des morceaux de son corps aux 4 coins du pays, on plante sa tête au bout d'une pique sur le pont de Londres. Ce qu'Édouard Ier n'avait pas vu venir, en revanche, c'est que cette exécution abominable allait heurter les Écossais pour les siècles des siècles. Wallace devient le symbole de la brutalité anglaise et les emmerdements des Anglais en Écosse ne font que commencer. Comme disait Terry Pratchett, l'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps.
Nova.